qui se cache derrière le micro de vos podcasts favoris. Hop, on va pas faire une intro à la RAF. Je suis Hermano, producteur de plusieurs podcasts, et avec mon invité du jour, nous nous sommes pliés à l'exercice de la communauté imaginée par Raph Grieco, le producteur, entre autres, du podcast Runaway Series. Dans chaque épisode de Offcast, on découvre les productrices et producteurs francophones de podcasts membres de la communauté. Certains en sont tellement fiers qu'ils ont même rajouté un badge podcast maker sur le site de leur podcast. À tour de rôle, un podcast maker invite un autre podcast maker pour en savoir plus sur son profil, son parcours, sa personnalité, sa passion, comment il est tombé dans le podcast, comment il imagine ses sujets et éventuellement source ses invités, comment il fait grandir son podcast et parfois comment il le monétise. On aborde aussi souvent la question du futur. Comment l'invité voit le monde du podcast, comment il voit son avenir et comment il voit sa place dans cette magnifique communauté de passionnés. Offcast est un format imaginé par Raphaël Grieco et produit par Podcast Maker, la première communauté de podcasts francophones. Pour ma part, je suis Hermano, le host du podcast Dans les Vestiaires. Dans les Vestiaires, c'est le podcast qui t'en dit plus sur les mécanismes que mettent en place les grands noms du sport, de l'aventure, de l'exploration, les grands artistes pour pouvoir financer leur carrière et vivre de leur passion. Je suis également le coproducteur du podcast Donacan, le podcast des sportifs connectés et le producteur du podcast Oana. Pour cet épisode, j'ai eu envie de découvrir et de donner la parole à Marie-Cécile Drécourt, la productrice du podcast Esperluette. Allez, assez parlé, je vous laisse avec mon invité du jour. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Offcast et je suis très heureux de recevoir une invitée qui fait partie de la communauté et que je vais laisser se présenter. Bonjour.
Bonjour Hermano, bonjour à toutes et à tous. Alors je me présente, je pensais que tu allais faire une petite intro, tu me mets directement dans le bain, donc allons-y.
Ah bah oui, direct.
Donc je suis Marie-Cécile Drécourt, je suis la créatrice du podcast Esperluette. J'habite dans le Vaucluse, dans le sud de la France et j'ai créé Esperluette il y a 2 ans et demi, avec aujourd'hui à mon compteur plus 150 épisodes, parce que j'aime bien créer pas mal de choses. Et le but, en fait, c'était par Esperluette de montrer que dans mon territoire, il se passait plein de choses hyper positives. Moi, j'aime bien entendre des choses positives et qui me donnent la patate. Donc, c'est un peu le but d'Esperluette. Je pense qu'on en parlera un peu plus en détail. Mais voilà, c'est de montrer qu'il y a des entrepreneurs, des artistes, des associations qui font plein de choses sur notre territoire. Et puis, bah, après, ça peut s'écouter partout, puisque dans mon territoire, ils sont chouettes, mais il y en a plein dans tous les territoires. Donc, ça peut aussi donner envie d'aller voir ce qui se passe chez soi, autour de chez soi.
Effectivement, on va revenir un peu sur ton podcast après, bon, la cible que tu vises. Mais en tout cas, moi, je l'écoute depuis le Luxembourg et j'apprends plein de choses intéressantes et parfois même ça donne envie de contacter les gens que tu as autour de ta table virtuelle ou physique ou les gens dont tu parles et donc je pense que ça ne s'adresse pas que à une audience de Vauclusiens et Vaucluziennes, n'est-ce pas?
Pas du tout, c'est vraiment ça, je reste sur mon territoire parce que j'adore, c'est mon territoire d'adoption, hein. Je suis originaire du nord de la France à la base, donc je suis pas Vauclusienne et c'est vrai quand je suis arrivée dans le Vaucluse, on m'a surtout dit oh, tu vas voir, à part le festival, il se passe rien, il y a beaucoup de chômage, c'est pauvre. Et là, j'ai dit, non, moi, je vois qu'il se passe plein de choses. Alors, allons-y, faisons un podcast.
Ah, on arrive déjà sur la genèse du podcast. Bon, juste avant de parler d'Esperluette, j'aimerais qu'on parle de toi. Tu nous as dit que tu étais originaire à la base du nord de la France. Comment est-ce qu'on se retrouve du nord vers le sud? Et puis, comment est-ce qu'on se décide à créer un podcast? Quelle est ta formation de base ou quel est ton métier de base avant de te lancer dans tout ça?
Oula, l'épisode va faire 3 heures, alors.
Allez, c'est parti.
On va essayer de faire court. J'ai 41 ans et je suis effectivement originaire du nord de la France, de Lille dans les Hauts-de-France, puisque dans le Vaucluse, quand on dit je suis originaire de Lille, on me dit « Ah oui, Lille sur la Sorgue !» Non, Lille.
Lille, vous savez, la ville tout en haut, à côté de Dunkerque.
Où il y a des ours polaires et... j'ai fait mes études à Lille, une partie à Paris, et en fait, à la base, moi, j'ai fait des études d'anthropologie. Donc j'étais passionnée par les Indiens d'Amérique du Nord, je vais la faire courte, mais je suis partie un an aux États-Unis pour finir mes études. Cette année-là, c'était l'année du 11 septembre 2001, donc ça a été un peu... chamboulée, pas du tout comme j'avais prévu. Et la recherche non plus, c'était pas mon truc, même si l'anthropologie essaie de comprendre les gens et pourquoi leur culture et comment ça se passait, ça m'intéressait énormément, mais voilà. La partie recherche derrière un bureau, c'était pas mon truc. Donc je suis rentrée en France et là, je suis partie dans la communication. Et
ah oui, de l'anthropologie à la communication, voilà. Il n'y a qu'un pas, n'est-ce pas ?
C'est ça. Donc j'ai d'abord fait une école de traduction, et dans l'école de traduction, il y avait des cours de com, et voilà, et je me suis retrouvée au fur et à mesure des hasards de la vie à faire mon dernier stage dans une agence de communication relations presse sur Paris, et j'ai commencé ma carrière comme ça en relations presse. Et voilà, et j'ai été attachée de presse pendant 4 ans à Paris. Bon, la vie à Paris, clairement, c'était pas pour moi. C'était bien pour débuter la carrière, mais voilà, le stress ambiant, la foule, tout ça, c'était pas pour moi. Et ce qui m'a fait arriver dans le sud, eh ben, c'est une rencontre. Hein. J'ai rencontré quelqu'un qui habitait vers Montpellier, et donc on a été amoureux, et je suis descendue, et voilà, je suis partie au fur et à mesure dans le sud. D'abord Montpellier, puis après le boulot m'a amené, on s'est séparés, donc le boulot m'a amené sur Avignon. Et là, ça fait quasiment 11 ans que j'habite dans le Vaucluse. Voilà, j'ai fait vraiment la version condensée. Hein.
Attends, t'as fait la version courte. Du coup, j'ai plein de questions. C'est déjà, comment est-ce qu'on se destine à une carrière ou à une formation d'anthropologue et puis ensuite une carrière ? Qu'est-ce que c'est l'anthropologie pour ceux qui ne connaissent pas ? Et puis, allez, un petit peu d'humour noir quand même. L'année du 11 septembre, l'anthropologie aux États-Unis, justement, si c'est l'étude des gens et de l'histoire des gens, je pense qu'il y avait pas mal de choses à faire, non ?
C'était dense, oui. C'était très dense. L'anthropologie, c'est y a plusieurs définitions, mais moi je le voyais comme ça, c'était l'étude des cultures et des organisations des différentes sociétés, des groupes de personnes. Donc on peut à la fois étudier des cultures qui sont éloignées, comme moi les Amérindiens en Amérique du Nord, ou alors ça peut être aussi l'étude des fans de football, ou ça peut vraiment être des petits groupes, des grands groupes, et c'est pas forcément des cultures qui sont passées, ou en tout cas qui sont plus dans aujourd'hui très actives, même si les cultures amérindiennes sont actives, mais essayent de s'en sortir comme elles peuvent. Et en fait, moi, c'est une passion qui m'a amenée vers ça. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont soutenue dans ce que j'avais envie de faire. J'ai commencé à dire très tôt que je voulais étudier les Amérindiens. J'étais passionnée par ça. Je ne sais pas par quel miracle, en fait. Ça a été... J'ai regardé Les Cités d'Or quand j'étais petite et, et ça m'a passionnée.
J'ai regardé aussi, mais je ne suis pas anthropologue. Hein.
Voilà. Bon, voilà. Il y a des choses comme ça qui sont à l'intérieur de soi, je pense, et on ne sait pas trop pourquoi. J'ai pas été creuser les raisons, mais en tout cas, j'ai pas ni d'origine amérindienne chez moi, ni de personne passionnée par ce sujet-là autour de moi. Mais voilà, ça a toujours été quelque chose qui m'a parlé. Je pense que c'est le rapport à la nature et leur rapport humain aussi qui était différent de nos cultures. Et moi, j'aime bien ce qui est différent. Donc, je pense que c'est ça qui m'a attirée. Et un jour, voilà, j'ai trouvé qu'on pouvait être anthropologue. Je me suis dit, allez, c'est parti. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont dit, ok, si c'est ce que tu veux faire, clairement, chercheur, c'est pas le métier le plus facile à faire et ça rapporte pas obligatoirement beaucoup d'argent. Mais si c'est ce que t'as envie, vas-y, fais les études, puis tu verras plus tard. Et effectivement, aujourd'hui, je suis pas anthropologue, mais ça m'a beaucoup servi et ça me sert aujourd'hui dans mon podcast, clairement.
Chercheur, c'est pas forcément un boulot de rêve. Enfin, c'est plutôt un boulot de rêve, mais c'est pas avec ce genre de boulot qu'on devient riche ou, enfin, si c'est un des objectifs qu'on se fixe quand on est petit. En tout cas, pas en France. Après, je crois savoir qu'aux États-Unis, les chercheurs sont plutôt assez mis en avant, assez reconnus, et puis que ce soit en termes de notoriété ou même en termes de financier. Est-ce que quand tu étais aux États-Unis, justement, cette idée d'y rester pour en faire ton métier n'a pas été plus forte que uniquement bosser derrière un bureau les premières années ?
Alors, ça l'aurait peut-être été s'il n'y avait pas eu les attentats, en fait. Parce que le 11 septembre 2001, c'était mon premier jour de cours à la fac.
Ah ouais, donc c'est clair que ça calme.
Voilà, donc ça...
Au quelle fac, t'étais pas à New York, quand même.
Alors j'étais dans le Colorado et à Denver. Très belle fac à l'américaine, hein, clairement, avec des belles salles de sport, des infrastructures de fou, des restaurants partout, voilà. Mais premier jour de cours. À l'époque, Internet était quand même beaucoup moins développé. On n'avait pas les smartphones, hein, je repose les choses... pour les jeunes générations, mais pas de quoi communiquer avec sa famille. C'était pas le premier jour, hein, j'étais arrivée quelques jours avant, mais c'était le premier jour où j'étais dans ma chambre avec mes futurs colocs. J'avais un ordinateur dans l'appart, on essayait de comprendre ce qui se passait, mais on n'avait pas vraiment les infos. Et puis voilà, puis on est sorti de notre chambre et on a ouvert la porte et à côté ils avaient une télé, nous on n'avait pas de télé, on a vu les tours s'effondrer en direct. Bon voilà quoi, c'est et là d'un coup il y a la différence culturelle, l'éloignement avec la famille, bah tout ce que moi je pensais qu'il allait pas me déranger, c'est-à-dire d'être loin de ma famille et de vivre ma vie et d'être loin et que c'était pas grave parce qu'il y avait des moyens de revenir. Bah il y avait plus d'avion, on n'a pas eu d'avion pendant une bonne semaine. Et puis les médias américains sont quand même assez violents, donc on a eu l'anthrax aussi, les attaques à l'anthrax dans les enveloppes, donc cette menace-là en plus, ils parlaient d'attaques nucléaires, enfin bon bref, c'était des débuts très difficiles et donc moi on m'avait dit tu verras le choc culturel, en tout cas le manque de ta culture tu l'auras au bout de 6-7 mois. Donc tu te dis, j'y suis pour un
jours,
an ou peut-être plus, voilà. Bah moi je l'ai eu au bout de 6 jours, quoi. Donc et puis de pas pouvoir rentrer chez soi, enfin d'en arriver à te dire, bah peut-être que si je passe la frontière mexicaine, je pourrais quand même prendre un avion parce que là-bas il y a des avions. Enfin tu vois, c'est quand même d'en arriver. T'as 22 ans, enfin même pas 21 ans, et tu te dis, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Je vais me retrouver avec la guerre dans le monde et toute seule moi dans mon pays avec ma famille à l'autre bout du monde. Bah non, c'est pas possible en fait. Enfin en tout cas pour moi, c'était pas possible.
Donc t'es quand même resté l'année entière pour
ouais,
finir tes études.
Ouais, je me suis dit quand même, je fais l'année. Allons-y. J'ai rêvé de ça depuis longtemps, donc allons-y. En plus de ça, quelques mois plus tard, au mois d'avril, je me suis fait un gros problème de santé, donc je me suis retrouvée à l'hôpital. Avec pareil, la réalité de la vie qui te dit que bah, finalement, ta vie est peut-être pas infinie, que tu vas peut-être pouvoir mourir du jour au lendemain. Donc, ça faisait beaucoup.
Ouais. Donc, ouais, en fait, puis le système de santé aux US, on connaît.
Ouais. Alors moi, j'étais bien protégée. Hein. Étudiant étranger, t'es bien protégée. Hein. On t'oblige à avoir une bonne assurance qui te coûte très cher et t'es content de l'avoir quand ça t'arrive. Ouais. Donc ça, il n'y avait pas de souci. J'étais dans des bons hôpitaux. J'étais super bien traitée. En plus, j'étais la française de l'hôpital, donc... T'es un peu bichonné dans ces cas-là.
I love the France.
Ah, c'est trop cute. Donc voilà, mais tout ça a fait qu'en fait, j'ai même pas eu le temps de réfléchir à est-ce que je reste chercheuse, est-ce que je reste là, est-ce que... Très vite, je me suis dit, ok, je fais un an, je le fais parce que c'est mon rêve, mais je rentre chez moi parce que ça me manque et que la différence culturelle, clairement, et notamment pendant la crise, après les attentats, elle a été énorme. Et je me suis vraiment rendu compte que on n'était pas pareil entre les Américains et les Français. Et que voilà, la culture française, c'était quand même ma base. Donc après, être chercheur et étudier les cultures amérindiennes en France, c'est pas possible parce que ça fait pas partie des cultures qui sont étudiées chez nous. On est plus à étudier les anciennes colonies, la France, l'Afrique, des choses comme ça. Mais voilà, ça a tout chamboulé, mais pourquoi pas? Ça fait partie de la vie.
Ouais.
Ça m'a appris beaucoup de choses cette année. Pas ce que je pensais, mais ça m'a appris beaucoup de choses.
Bah, remarque, se rendre compte que les États-Unis et la France, enfin, ou plus largement l'Europe, c'est pas la même culture pour une anthropologue, c'est pas mal quand même.
Ah, mais c'était. Après, avec le recul, c'était passionnant. Sur le coup, t'es un peu dans la panique, tu sais pas trop où te mettre, tu sais pas comment gérer, mais. Moi, je vivais en coloc avec d'autres Européennes, donc je me suis vraiment rendu compte qu'on avait des coïncidences et des vrais, voilà, des rapports culturels qui étaient quand même assez proches, et notamment à l'histoire. On a tous, entre Européens, pensé à la Seconde Guerre mondiale parce qu'on nous parlait de la guerre. Les Américains, ils parlent pas du tout de ça. Dans le Colorado, ils ont mis une semaine à réagir parce que pour eux, New York, c'est loin. Enfin, tu vois, alors que nous, on a réagi tout de suite. Enfin, il y a eu plein de choses comme ça. Donc oui, avec le recul, c'était hyper riche en réflexion. À vivre, j'étais pas prête, je crois.
Ok, bon, donc 22 ans, tu finis ton année d'études aux États-Unis et puis tu reviens en France. Donc tu nous as dit, t'as atterri dans une agence de com.
C'est ça, donc j'ai fait une école de traduction et commerce international pendant 2 ans sur l'île. Et dedans, il y avait des cours de com et j'ai trouvé un stage qui m'a permis d'être attachée de presse entre la France et l'Angleterre pour l'office du tourisme de l'île, enfin du Nord. À l'époque, c'était pas les Hauts-de-France, du Nord, Pas-de-Calais.
On parle encore pour les jeunes. Hein,
eh ben oui. J'ai organisé ma première conférence de presse et j'ai trouvé ça sympa parce que ça m'obligeait à avoir à rédiger dans les deux langues, avoir des contacts à faire de l'organisation d'événements, des choses comme ça. Et là, je me suis régalée. Et mon stage de fin d'études, je l'ai fait dans une agence de relations presse à Paris qui m'a embauchée. J'y suis restée pendant 4 ans et demi.
Mais alors, comment est-ce qu'on passe justement de anthropologue, bon, finalement, c'est peut-être pas la voie rêvée, je vais faire autre chose, à une formation de traductrice ?
Bah après, c'est toujours pareil. Tu sais, tu rentres, tu sais pas trop où t'es. Tu cherches un peu ce que tu vas faire parce que là, il y a tous tes projets qui sont partis en fumée. Et puis là, je me suis dit, bah, qu'est-ce que j'ai comme background, c'est que bah, je parle anglais couramment aujourd'hui et ça fait partie des choses que j'ai appris. Et les langues, c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime bien parler espagnol. En revenant, puisque tu aimes bien le sport, je suis devenue bénévole pour les championnats d'athlétisme en e-sport qui se sont passés à Lille l'été 2002. Donc je me suis retrouvée à m'occuper de l'équipe du Brésil et à apprendre le brésilien comme ça en 15 jours parce que les organisateurs m'ont dit bah tu parles espagnol et anglais, c'est bon, occupe-toi de l'équipe du Brésil. oui. OK.
C'est pas la même langue. Si t'inquiète,
non,
tu vas te débrouiller.
Ouais, c'est pareil. Donc il y en avait qui parlaient anglais, donc moi je leur parlais anglais, espagnol, ils me répondaient en portugais et puis voilà, puis j'ai appris plus ou moins le brésilien comme ça et donc je me suis dit, bah les langues, j'adore ça, je me régale à apprendre des nouvelles langues, ça fait partie aussi de la culture, hein, la première base, si tu veux tuer une culture, tu t'empêches la personne de parler sa langue et tu tues une grosse partie de la culture, quoi. Ouais. Donc pour moi, ça avait un lien et j'ai trouvé cette formation sur Lille, j'ai dit allez, c'est parti. Il y avait aussi des cours de commerce, de compta, donc je me suis dit, voilà, on verra ce qui se passe, mais au moins c'est un peu large, tu vois, ça permet de ouais. Ça permet d'évoluer parce que je savais pas du tout, j'ai dit que je voulais être anthropologue, je devais être au collège, quoi, donc fin du collège, donc pour moi c'était la base, c'était toute ma vie, et là d'un coup il y avait plus rien, donc bon, on fait comme on peut, plus la dépression du retour, hein, parce que quand t'as passé un an à l'étranger, il y a un moment où bah tu reviens, t'as plus tes repères, tes amis, bah toi t'as vécu plein de choses et en face tes amis ils ont pas vécu les mêmes choses, donc c'est un peu, il y a des décalages, bon il y avait une petite dépression aussi par la même occasion, quoi, c'était pas une dépression mais en tout cas c'est pas
un
facile,
petit coup de mou, quoi.
Un gros coup de mou, ouais. Donc j'ai trouvé ça et je me suis dit allez, c'est parti, on verra, hein. Je suis un peu comme ça, moi je fonctionne à l'instinct et le podcast c'est pareil.
Ok, donc je comprends mieux ce que tu nous disais en intro, c'est-à-dire t'es pas trop faite pour bosser derrière un bureau maintenant. Je comprends mieux.
Non, non, même si je suis souvent derrière mon ordinateur, j'ai besoin du contact, j'ai besoin d'échanges, j'ai besoin de nouveautés, j'ai besoin que ça bouge, voilà. C'est peut-être le lien entre l'anthropologie, la traduction, la communication, le podcast, tout ça, quoi.
T'arrives dans le Sud il y a une quinzaine d'années, de Vaucluse il y a 11 ans, c'est ça ?
Ouais.
Après une expérience en agence de com, tu nous as dit que les gens te disaient qu'en arrivant dans le Vaucluse, c'est mort, il y a du chômage, il n'y a pas grand-chose à faire. Toi, tu t'es rendu compte que non, c'était tout à fait le contraire. Est-ce que c'est vraiment de là qu'est née ton idée, ton envie, ton besoin de créer un podcast et d'en parler, ou ça a mûri sur quelques années ? Mûri sur quelques années, parce que ton podcast, il n'a pas 11 ans.
Non, le podcast n'a pas 11 ans. Le podcast est né assez vite. En fait, c'est pareil, c'est une histoire de rencontre. C'est un peu toute ma vie, quoi. C'est que je crée ma boîte, je fais pas de business plan, je crée un podcast, je sais pas où je vais aux États-Unis, je reviens, enfin voilà, je fonctionne beaucoup à l'instinct et bon, pour le moment, ça marche plutôt pas mal, donc ça va. Donc en fait, en arrivant dans le Vaucluse, j'ai eu un boulot salarié toujours dans la communication. Je travaillais dans une grosse boîte en communication interne et au bout de 2 ans, le poste a été bougé en Angleterre. Donc je me suis dit non, je ne suis pas partie du nord de la France pour aller en Angleterre. Donc je pars, je refais une formation parce que j'ai envie de bosser sur le territoire, dans le tourisme, tout ça. Le territoire me plaisait vraiment bien. Je trouvais qu'il y avait une diversité de paysages qui était assez intéressante. Et parce que j'aime beaucoup la nature et la rando, donc voilà. Et donc, j'aime les gens, mais j'aime la nature aussi.
Dr Bones, pour ceux qui ont des références de séries sur M6.
C'est ça. Et donc, voilà. Et donc, je refais une formation en tourisme, cette fois-ci, en tourisme et développement durable, à l'Université d'Avignon. Et en sortant de là, je cherche du boulot, je trouve pas. Et dans mes contacts, j'avais un journaliste de France Bleu Vaucluse qui avait bossé avec nous sur des tournages dans mon ancienne boîte. Où je travaillais en com interne, que je rencontre pour faire une sorte de démarche réseau. On me dit, il faut que tu développes ton réseau, ok. Donc, je vois cette personne qui s'appelle David. Ouais, coucou David, si tu nous entends, parce qu'on bosse toujours ensemble depuis. Et donc, il me dit, bah écoute, moi, j'ai un événement là bientôt. J'ai besoin de quelqu'un pour coordonner tout ça. Si tu veux te mettre à ton compte, allez, c'est parti. On travaille ensemble. Je pense que tu as les compétences pour faire ça. OK, très bien.
Allez,
on
bingo.
Fait un premier événement ensemble. Et puis après, il me dit, bon, bah ça a bien marché. Donc, dans 3 semaines, là, j'ai un plateau télé pour le Festival d'Avignon. J'ai besoin de quelqu'un pour coordonner le plateau télé. Si tu veux, vas-y, c'est parti. On y va ensemble, quoi. J'avais jamais fait le Festival d'Avignon, je venais d'arriver, j'avais dû voir 3 pièces de théâtre dans ma vie, je ne savais pas ce que c'était le Festival d'Avignon, parce que c'est quand même, c'est à vivre une fois dans sa vie, qu'on aime le théâtre ou pas. J'avais jamais fait de plateau télé, mais c'est parti, allez. Je lui ai dit, bon, s'il me dit que je peux le faire, je vais le faire. Il me dit, non, mais j'ai besoin de quelqu'un qui fait du planning, ok, bah, c'est parti. Et donc, j'ai fait mon premier Festival d'Avignon à la production de cette émission de télé en direct. Et là, je me suis dit, OK, bah, à la production, je suis bien, en fait, dans la partie off. Surtout, je veux pas être au micro. Surtout, je suis bien quand on me voit pas. Mais par contre, je vais voir des pièces et je découvre le théâtre et l'ambiance du festival et les contacts avec les artistes. Et je me régale à faire ça, en fait, parce qu'au final, moi, je leur parle avant et je débriefais l'animateur pour lui dire, bah, voilà les questions que tu peux poser, parce que j'ai vu la pièce, voilà ce que tu... les trucs. Donc, en fait, je faisais les interviews, mais en off, voilà, surtout pas à l'écran. Bon, voilà, il y a un an qui se passe, 2 ans, 3 ans, et au bout de la 3e année, je fais ça, mais toujours à la radio, à France Bleu, cette fois-ci, parce qu'il n'y avait plus le plateau télé. Et au bout de la 2e émission, David me dit, bah, écoute... ce soir, on reçoit, donc on recevait Alexis Michalik, qui est un grand metteur en scène et acteur de théâtre qui a 5 ou 6 Molières à son actif, qui est quand même assez connu. Et il me dit à 2 minutes du direct, alors que Alexis Michalik était là, bon, bah écoute, c'est toi qui vas faire l'interview.
Allez, bing!
Non. Et là, bah, Alexis Michalik me dit, bah pourquoi c'est toi qui... on a discuté de la pièce ce matin ensemble, pourquoi c'est toi qui as vu la pièce, c'est logique. Et je dis, bah oui, mais non, mais moi je suis là pour faire la prod, je suis pas là pour... Non. Bon, bah t'es à 2 minutes du direct, y a tout le monde qui te dit, vas-y, bah tu prends le micro et puis t'y vas, en fait. Et bon, voilà, David, ça faisait plusieurs années qu'on bossait ensemble, donc je savais que si je me plantais, même en direct, il aurait rattrapé le coup et qu'il savait très bien faire. Donc voilà, j'ai fait ma première interview comme ça. Et bah, au final, j'en ai fait une tous les jours en direct pendant tout le Festival d'Avignon. Et là, je me suis dit, mais c'est génial, en fait, parce que je retrouve mon boulot d'anthropologue où j'interroge les gens sur pourquoi, comment, qui es-tu, qu'est-ce qui t'anime. Je me retrouve à parler avec des artistes connus, pas connus, et voilà, et c'est plus du tout le même boulot, et la reconnaissance, elle est différente aussi, et je m'éclate vraiment à la fin de ce festival. Je suis sortie, j'étais mais épanouie, voilà, en me disant, waouh, je l'ai fait, quoi.
alors ça, c'était quand?
Ça, c'était, 2017, juste avant la création d'Esperluette, quoi.
On va aller chercher ça et puis on le mettra dans les notes de l'émission.
Voilà.
Comme ça, on pourra juger de ta première...
Ouais, j'ai des vidéos parce qu'il en a filmé quelques-unes. J'ai pas la première, je pense pas, je l'ai pas la première. Mais j'en ai quelques-unes, ouais, que j'ai mis sur mon site, parce que c'est des bons souvenirs. Et voilà, sauf qu'en fait, on avait 3 minutes pour faire parler les gens.
Ah tiens, 3 minutes, ça me rappelle quelque chose.
Ouais, 3 minutes, comme le cappuccino, tu vois. Et ben, 3 minutes pour faire une interview avec des chroniqueurs autour de la table et plein de choses qui peuvent se passer sur un plateau en direct, bah, c'est hyper frustrant parce que moi, j'avais envie de comprendre d'où venait la pièce, pourquoi, qu'est-ce qui les animait là-dedans, enfin, tu vois.
Ouais, je vois très bien.
Voilà. Et donc, en sortant de là, je discute avec mon frère qui vit au Portugal. Enfin, est-ce qu'il était déjà au Portugal à l'époque? Je ne sais plus. Ou en Angleterre. Bon, bref, mon frère bouge beaucoup. Et il me dit, bah, pourquoi tu fais pas un podcast? Bah, je lui dis, je sais pas. C'est quoi un podcast?
C'est quoi un podcast?
attends, là, j'ai pas suivi. donc, je connaissais les replays de... Et encore, j'écoutais pas de podcast. Je connaissais les replays des émissions que j'aimais bien, la radio, France Inter, tout ça, mais j'écoutais pas de podcast. J'avais pas d'appli de podcast sur mon téléphone. Je savais pas du tout ce que c'était, quoi. Donc, il me dit, bah, vas-y, écoute-en. Il m'en donne 2-3. J'écoute plusieurs trucs, plutôt, vous voyez, France Inter, France Culture. Puis là, je commence...
On recentre encore pour les petits jeunes qui sont pas si vieux que ça quand même. Avant, il n'y avait pas d'appli de podcast.
Hein?
Enfin, il y avait que iTunes podcast, mais il y avait
c'est
pas
ça.
D'autres applis.
Et comme moi, j'ai pas d'iPhone, bon voilà quoi.
OK.
Donc j'ai fini télécharger Podcast Addict quand même parce qu'au fur et à mesure et là, je me suis dit mais en fait, c'est chouette et puis il me dit bah en fait, l'avantage du podcast, c'est que tu fais un truc, tu fais un épisode, t'en fais 10, tu verras, et si ça se passe bien, ça se passe bien, et si ça se passe pas, bah t'arrêtes, en fait. Y a pas d'enjeu, Bon, là, évidemment, j'arrive à la grande question du « Ok, ça serait bien, j'ai des idées, ça commence à cogiter dans ma tête, mais j'ai pas de micro. » Bon, ben, c'est un peu comme les entrepreneurs, ils ont pas de carte de visite, mais ça passe quand même. Et là, il me dit « Bah, c'est pas grave, tiens, j'en ai un, j'ai un Zoom, un petit Zoom H2. Moi, je l'utilise plus parce que lui, il fait des enregistrements de musique électroacoustique. Et donc, il dit « Ah, celui-là, je l'utilise plus, donc tiens, t'as un micro maintenant. » Ah. Bon, bah, j'ai plus de raison de dire non. On va y aller.
Voilà, c'est ça. Il va falloir y aller. Et après, qu'est-ce qu'on fait? L'hébergeur, l'enregistrement, le setup,
ouais,
et
voilà.
T'inquiète. Ça va se gérer tout seul.
C'est ça. Après, une fois que je me suis dit, je vais y aller, une fois que j'y vais, je vais chercher les infos, j'ai trouvé l'hébergeur, j'ai commencé avec PodCloud en version gratuite, je suis passée à Ocha après. Mais bon, voilà. Après, je me suis dit, bon, ok, maintenant que j'ai le micro, je vais en tester une. Je vais prendre une personne que je connais un peu, pas trop, je vais réfléchir à une ligne éditoriale, je discute avec mes potes pour trouver des noms, et puis voilà, puis on verra, en fait, on verra si ça prend ou pas.
Et donc, pour revenir sur la genèse de ce podcast, donc là, tu nous as dit, ok, t'étais prête dans les starting blocks,
ouais,
chaude pour y aller, et du coup, ton premier épisode, comment est-ce que tu l'as enregistré? Est-ce que c'était à l'arrache? Est-ce que c'était quelque chose de très scripté? Est-ce que tu lisais tes notes? Est-ce que tu lisais tout? Ou est-ce que ça a été de l'impro? Est-ce que tu étais toute seule? Est-ce que c'était avec du monde? Comment c'était ces 10 premiers épisodes?
Alors, le tout premier, c'était donc le chéri d'une copine qui est dessinateur de BD et qui avait dessiné une BD sur le Festival d'Avignon, que j'aimais beaucoup. Qui s'appelle Gerloc, si vous voulez aller voir. Et donc voilà, je voulais pas quelqu'un de trop proche non plus, parce que je me suis dit sinon c'est trop facile, et puis peut-être même je vais me mettre une pression d'enfer qui vaut pas le coup, parce que quand c'est quelqu'un que tu connais, c'est pas pareil en fait, je trouve. Et là, j'ai interviewé mon frère il y a pas longtemps, c'était particulier, tu vois, par exemple. Et par contre, voilà, je voulais quand même quelqu'un où je savais que si je me plantais complètement, ça allait pas être trop grave, quoi. Et donc, on s'est donné rendez-vous chez lui. Donc, il y avait ma copine, Gerloc, et puis on s'est posé autour d'une table. Il est originaire du nord de la France, donc on a ouvert une bière, évidemment.
Forcément.
Donc voilà, ça a détendu l'atmosphère. Et moi, je suis venue comme je viens déjà aujourd'hui. En fait, c'est ce que je fais toujours. C'est que j'y vais, mais j'ai pas de questions. J'y vais, bon, j'avais un peu réfléchi à qu'est-ce que je voulais, où est-ce que je voulais l'emmener. Le but, c'était de parler de son parcours et combien on devient dessinateur de BD. Voilà. Et voilà,
voilà, t'as la trame.
Je suis venue avec ça. Et mon H2. Et je l'ai posé sur la table et je savais pas du tout ce que ça allait donner. J'avais pas de casque à l'époque, j'écoutais pas ce que j'enregistrais, donc il y avait des bruits. Voilà, la bière, c'est bien, mais sauf qu'après, pour réfléchir, c'est plus compliqué. Donc maintenant, j'évite l'apéro avant l'interview.
Ouais, ça dépend, une ou 10, c'est sûr que c'est pas pareil.
Non, il y en a eu qu'une, mais voilà, moi, je préfère faire l'apéro après. Quand on est content, avant, c'est la tisane, après, c'est l'apéro. Voilà, et je suis venue vraiment à l'arrache. En fait, moi, j'ai toujours fait ça, même dans des présentations. Je dis pas que j'y vais sans y réfléchir, mais plus je note, plus je scripte, plus ça me stresse.
Ah ben, on se comprend bien alors.
Voilà, donc j'y vais et puis on verra. Et en fait, moi, ce que je veux, c'est que la personne, elle me parle comme, voilà, on se parle tous les deux là, comme si c'était une conversation et qu'il n'y avait pas de micro. Et puis surtout que on oublie justement très très vite le micro et qu'il y ait une sorte de, voilà, d'ambiance un peu sympa à écouter. Voilà, donc j'avais envie de ça. C'était juste ça. Voilà.
Ouais, bah, de toute façon, pour la génération 2020, je pense qu'ils comprennent bien, c'est le fameux apéro Zoom ou apéro Skype. Hein.
Bon,
on est quand même dans une époque formidable.
On était en direct, il n'y avait pas le masque et on était loin de s'imaginer qu'on aurait une pandémie quelques années plus tard. Mais voilà. Et donc, voilà, j'ai fait ça. Et puis, en même temps, j'écoutais beaucoup Les Pieds sur Terre sur France Inter.
France Culture.
Oui, France Culture.
Radio France.
Enfin, Radio France, voilà, c'est ça. Et moi, ce que j'aime dans Les Pieds sur Terre, c'est qu'on n'entende pas les journalistes. La plupart du temps, ça arrive, mais la plupart du temps, c'est monté pour qu'on ait l'impression que la personne te raconte l'histoire, voilà, comme si c'était toi qui l'écoutais juste en direct. Et je me suis dit, bah voilà, si j'ai un truc que je veux faire, c'est ça, c'est pas m'entendre. C'est un peu le syndrome du « je suis à la production, je veux pas qu'on me voie », bah c'était pareil.
C'est
on
le syndrome de l'imposteur.
On parle pas de moi. Bah pas forcément de l'imposteur, mais moi, pour moi, c'était mon objectif, c'était de valoriser les gens. Et donc, mes questions n'allaient pas forcément apporter quelque chose. Comme en plus, je ne les préparais pas. Si c'est hyper scripté, oui, tu peux apporter des choses, une analyse personnelle, des choses comme ça. Quand il va comme ça à l'instinct. Bah, le but, c'est de rebondir et d'être prêt à rebondir à ce que la personne va te raconter. Mais par contre, bah, ça veut dire que mes questions, effectivement, j'avais des E, des A, des machins, et je sais pas, et on va réfléchir. Et donc mes questions, en soi, elles apportaient pas grand-chose. Donc je me suis dit, voilà, je vais faire ça, et parce que j'aime bien faire les choses de manière compliquée, au lieu d'enregistrer le truc et d'être tranquille et de le balancer comme ça, non, je me suis dit, je vais enregistrer, et après je monterai derrière pour qu'on ait l'impression que Gerlock vous raconte son histoire à vous tout seul, et je suis pas là, et voilà. Je fais juste l'intro, la conclusion, et basta. Donc il a fallu que j'apprenne à monter aussi par la même occasion.
Donc ton premier épisode, tu l'as délivré combien de temps après l'enregistrement ?
On l'a enregistré en début d'année, ça devait être janvier ou février, je crois, et je l'ai sorti en avril.
Un peu de temps quand même pour faire le montage.
Ouais, un peu, ouais, parce que couper les questions, tout remonter, trouver le jingle, parce qu'évidemment si tu montes tout, t'as 40 minutes d'interview, bah, il faut quand même des petites virgules au milieu pour... donner de la respiration, parce que sinon, écouter, c'est l'enfer. Faire mon intro, m'enregistrer, écrire le truc, enfin voilà, c'était... Ouais. Et puis monter, enfin, j'avais déjà monté des vidéos, mais là, c'était pas le même boulot. Puis tu le réécoutes 50 fois, et puis tu te dis, non, ça va pas. Et puis finalement, bah, y a un moment, faut le balancer, quoi. C'était l'avantage du plateau radio la première fois, c'est que c'était du direct. Donc j'ai fait, et c'était fait, et voilà.
Et puis après, tu reviens pas dessus.
Et ben là, c'était pas le cas. Donc voilà, mais c'est une belle expérience, c'était chouette.
Ok, donc ça, c'était ton premier épisode.
Ouais, tout
et
premier.
Puis les 2, 3, 4, 5, 10 qui ont suivi, est-ce que c'était du même ordre ? Est-ce que tu avais un peu plus de facilité ? Est-ce que ça se passait mieux ? Ou est-ce que c'était tout aussi compliqué que le premier ?
Bah, au final, moi, l'enregistrement, dès le premier, ça a été super, c'était facile. Après, c'est le montage qui est plus long. Donc ça s'améliore au fur et à mesure. J'ai utilisé différents... Au début, j'utilisais mon outil de montage vidéo. Hein, donc j'utilise Premiere Pro pour monter mon son. Donc c'est bien, mais c'est pas fait pour ça. Maintenant, je suis sur Reaper. Donc, l'interview, ça s'est toujours passé de manière assez ouverte, facile. En fait, moi, quand je fais l'interview, c'est là où je me sens que je suis au bon endroit, en fait, et que vraiment, bah, c'était cet instinct-là d'aller vers le podcast, c'était une très bonne idée. C'est que quand je fais l'interview, je suis dans une bulle. Et je me régale, en fait, et je partage avec une personne, et OK, c'est enregistré, mais c'est pas le but. Enfin, c'est pas à ça que je pense. Et je pense que le fait que justement on n'entende pas mes questions, ça me permet ça, de pas réfléchir moi à mettre une pression sur ce que je dis. Et quand je suis dans ma bulle, après je me régale, je sors de là. Des fois j'ai eu des interviews où je suis sortie avec certaines personnes, mais j'étais limite les larmes aux yeux, en fait, tu vois, d'avoir rencontré vraiment une personne que je connaissais, parce que souvent c'est quand même des gens que je connais, ou en tout cas qui ont croisé ma route à un moment ou à un autre. Et puis voilà, t'as une vraie révélation et tu te dis, ah ouais, mais j'avais bien senti quelque chose de top sur cette personne, mais voilà, c'est vraiment ce qui se passe. Et donc voilà, moi l'interview en soi, elle se passe toute seule. J'ai jamais eu est-ce que j'ai eu des galères, des galères techniques, oui, ça m'est arrivé, mais pas de galère sur la partie enregistrement et moi, la sensation. Après, le montage est plus ou moins facile selon la personne, selon le son que t'as derrière, voilà. Mais j'apprends au fur et à mesure. En fait, pour moi, c'est une... Esperluette, c'est une plateforme qui me permet d'essayer des choses, en fait. De tester, voilà. Donc j'ai changé, j'ai plein de formats, voilà, ça bouge beaucoup.
Ouais, bah justement, je voulais revenir là-dessus sur le plein de formats, parce que tu dis c'est une plateforme où tu apprends, où tu grandis avec ton podcast. Donc tu fais grandir ton podcast, mais tu grandis aussi avec.
Ouais.
Et maintenant, tu as dit 160, 170 épisodes ?
155, là.
Presque 160. Mmh. Et il n'y a pas que ce format d'interview où on n'entend pas tes questions. Il y a aussi d'autres formats. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces autres formats ? Et puis, la genèse de ces autres formats, pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans autre chose ? Pourquoi t'es pas resté sur de l'interview one-to-one où finalement ça devient du one-one, en fait ?
C'est ça. Ben en fait, au début, donc, mon objectif, c'était une publication par mois. Voilà, une interview par mois sur ce format-là, ce que j'appelle les rencontres, donc où je monte derrière et on n'entend pas les questions. Puis après, je me suis rendu compte que quand même, si je publiais un peu plus souvent, ça serait pas mal parce que ça permet de développer le podcast et d'avoir un peu plus d'auditorat aussi. Puis des fois, ben, je rencontrais des gens qui avaient... des projets, mais qui n'étaient pas encore assez avancés dans leur projet ou dans leur vie sur ce projet-là pour pouvoir raconter 40 minutes du début jusqu'à la fin et comment j'en suis arrivée là. Donc j'avais un peu envie de leur donner de la visibilité. Donc j'ai créé un deuxième format qui était beaucoup plus court, toujours sans mes questions, mais qui là durait 10 minutes au lieu de 40-45 ans. Et ça s'appelait En Vaucluse. Là, je l'ai terminé là, il n'y a pas longtemps. Voilà, donc c'était la version courte. Et puis en même temps, Julie, une copine qui était aromathérapeute, me dit « Ah, moi j'aimerais bien faire de la radio aussi. » Je lui dis « Bah vas-y, si tu veux, je te laisse un créneau sur Esperluette, il y a de la place, n'hésite pas, moi ça me fera des publications plus régulières. » Et donc elle nous a fait une petite chronique sur les plantes pendant quasiment un an. Pareil, une fois par mois. Et en fait, dans ma tête, ça a été ça. C'est de me dire, OK, il y a moi, il y a ce que j'ai envie de faire, il y a les interviews que j'ai envie de mener. Mais en même temps, j'ai envie aussi de laisser de la place s'il y a quelqu'un qui a envie de parler sur Esperluette. Après, il faut que ça soit dans ma ligne éditoriale, dans le positif. Il faut que ça me plaise et qu'on bosse bien ensemble. Mais mon but, c'est aussi que ça soit pas comme une radio parce que je vais pas diffuser toute la journée. Mais en tout cas, s'il y a quelqu'un qui a envie de faire quelque chose, ben, on en discute et ça peut se faire. Donc Julie a fait ça pendant un moment, après elle a arrêté. Pendant le Festival d'Avignon, bah, j'ai dédié mes interviews au Festival d'Avignon, donc j'ai créé un format spécial avec des questions toujours les mêmes que je posais à chaque artiste. Pendant le confinement, bah, là j'ai rendu Esperluette collaborative, donc j'ai demandé aux gens de s'enregistrer eux-mêmes avec leur petit téléphone et de me raconter une histoire, un lieu du Vaucluse qui leur plaît, une chanson, faire quelque chose pour détendre les gens. Voilà, donc ça évolue tout le temps en fait.
Et le format Utisanoli, table ronde
Voilà, et après, bah pareil, à un moment, je me suis dit, bon, j'ai envie de... Alors ça, c'est un lien un peu professionnel, en fait. C'est que, ben, à côté, mon métier, c'est toujours la communication. Je suis à mon compte depuis 2013. Et je développe des outils de com pour tout le monde. Et au fur et à mesure du podcast, je me suis dit, mais quand même, s'il y a bien un outil qui serait top, qui se développe pour les entreprises, c'est le podcast. Parce que l'audio, ça apporte énormément de choses. On fait beaucoup, beaucoup de vidéos qui, des fois... Enfin, voilà, l'image n'est pas très, très utile. Hein. le fond est bon, mais l'image n'est pas utile. Bah, typiquement, hein, le zoom, c'est très bien. Hein, mais voir quelqu'un qui parle devant un micro avec un mur blanc derrière, ça part au soi, l'image n'a pas d'intérêt. Et je me dis, par contre, quand on a que le son, ça permet de se focaliser sur le contenu et puis ça stresse moins les gens parce que t'as pas la caméra, la lumière, le maquillage, le truc, le machin.
Oui, puis pour l'auditeur, ça apporte aussi une certaine facilité. C'est plus facile de se mettre des écouteurs dans les oreilles quand tu cuisines,
quand tu
fais du ménage, quand tu bosses, quand t'es sur la route, quand tu fais du sport ou autre, plutôt que d'avoir les yeux rivés sur un écran.
Puis je pense qu'on est beaucoup sur des écrans, donc l'audio, ça permet ça aussi. C'est de se... mon petit slogan du moment, c'est reposer vos yeux, écouter un podcast, tu vois.
Donc, ah, c'est pas mal.
Donc, voilà. Et donc je me suis dit, bon, dans ces cas-là, il faudrait que je puisse faire des interviews où là, on va entendre mes questions, que j'anime des tables rondes, peut-être faire de l'animation, comme beaucoup d'animateurs radio font de l'animation de conférences. Donc bah, si j'ai envie d'être capable de faire ça, il faut qu'à un moment, je le teste. Et donc, ben, Esperluette, c'est fait pour tester. Donc, j'ai lancé cette table ronde, une tisane et au lit, où on échange avec deux copines qui sont toujours là, plus des invités, autour d'une thématique. On en est au 7e épisode, là, et voilà. Et donc, le premier, c'est pareil. Je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce que je fais, ce que je prépare. Donc, je prépare quand même un peu plus mes questions, là. C'est un peu plus... C'est obligé hein, que ça soit un peu plus préparé, puisque là, on enregistre en direct et que je monte quasiment rien. Je coupe quand on se prend un gros fou rire ou qu'il y a un bug technique, mais à part ça, c'est...
Ah, faut pas couper, faut laisser, ça.
Bah, ça dépend du fou rire, en fait, c'est que des fois... Mais au final, je coupe pas grand-chose, quoi. C'est vraiment... c'est plutôt mes bugs dans l'intro où je bégaye. La dernière fois, Séverine, je l'ai appelée Stéphanie, je ne sais pas pourquoi. voilà, donc ça, je coupe.
Ok.
Voilà, mais c'est pareil, c'était une manière de tester, de voir si le format allait me plaire, si ça allait me plaire d'animer une table ronde, parce que c'est pas du tout la même chose. Et je me régale aussi, en fait.
Bon, en tout cas, je pense que tes auditeurs se régalent. Et justement, en parlant de tes auditeurs, quel est le retour que tu as sur ton podcast? Alors déjà, le retour de la part de tes auditeurs, est-ce qu'ils aiment, est-ce qu'ils n'aiment pas? Le retour aussi en termes de nombre d'auditeurs, est-ce qu'il augmente, est-ce qu'il diminue, est-ce qu'il stagne? Est-ce que tu vois des pics de progression? Et alors, on pourra reparler du confinement, mais est-ce que pendant le confinement, malgré l'augmentation de tes formats, malgré l'ouverture d'Esperluette à d'autres créateurs, est-ce que les audiences ont bougé en plus, en moins? Qu'est-ce que ça donne maintenant? Parce que est-ce que tu as déjà une petite vue après ce deuxième confinement? Qu'est-ce que tu vois comme avenir pour Esperluette?
Oula, il y a beaucoup de questions.
Ah bah ouais.
Alors,
t'es anthropologue, hein, si t'as pas tout retenu, tu rembobines.
Alors, c'était quoi la première? Ça y est, tu vois, je me suis perdue. Sur l'auditorat, oui, les retours des auditeurs. Au début, j'avais un auditorat qui était très, très, très local, hein, évidemment, puisque comme ma ligne, c'était vraiment le Vaucluse, c'était assez local. Les retours sont très bons. En fait, pour ceux qui ne savent pas, l'esperluette, tu sais ce que c'est un esperluette ou pas?
Non.
Ah, c'est le signe, le « et » commercial, là. Tu sais, la petite...
Ah, ok, ouais. le 8 commercial.
Le petit 8, l'infini, ou voilà. En tout cas, donc c'est ça. Et le but d'esperluette, c'était de créer du lien sur le territoire, ou en tout cas de montrer que, ben, en fait, oui, il se passe plein de choses, mais en plus, peut-être les gens pourraient travailler ensemble ou se parler, ou enfin, tu vois, voilà. Créer de l'échange. Et mes premiers retours qui sont pour moi, même s'il n'y en a pas énormément, mais ça arrive maintenant de plus en plus régulièrement, c'est quand les gens me disent « Ah, mais grâce à toi, j'ai découvert un tel ou une telle. » Et bah, on bosse ensemble, ou « Et ça m'a permis ci ou ça. » Voilà. Donc ça, pour moi, même s'il n'y en a qu'un sur les 6 mois, bah, ça me fait ma journée, mon
c'est
mois.
C'est super gratifiant.
Et voilà, carrément. Parce que mon but, c'est vraiment ça, c'est de valoriser les gens et ce qu'ils font. Pas me valoriser moi, et donc même si ça me fait une sacrée carte de visite et que voilà, professionnellement au niveau de la com, ça m'a beaucoup beaucoup aidé, hein, clairement. Mais mon premier objectif, c'est ça. Donc moi, dès qu'on me dit bah, grâce à toi il s'est passé ci ou ça, j'ai appris ci ou ça, bah, je suis ravie, hein. Moi, c'est objectif ok et plus qu'ok, donc ça m'arrive de plus en plus, donc ça c'est chouette. Après, au niveau de l'auditorat, oui ça a bien grossi. Moi, je suis autour de entre 100 et 300 écoutes par épisode, donc c'est pas énorme, mais c'est pas mal. Ça a bien explosé à la fois l'année dernière, en 2019, quand j'ai fait mes interviews pendant le festival, parce que je publiais tous les jours, voire deux fois par jour. Donc voilà, et bon, les épisodes, puis les artistes ont partagé, donc voilà, j'avais certains artistes qui avaient un gros réseau, donc évidemment, ça a fait des grosses écoutes. Et là, pendant le confinement, bah pareil, le fait d'avoir quelque chose de super positif, pas prise de tête, assez court, et qui se partageait tous les jours avec une fois un conte, une fois une balade dans le Vaucluse, une fois une chanson ou une création artistique, et ben... Ça a permis aux gens de s'évader, et pareil, mes écoutes, elles ont un peu explosé, voilà. Après, aujourd'hui, bah, le podcast dans le Vaucluse, moi, à chaque fois, même quand je fais les interviews, les gens, je leur apprends à écouter des podcasts, en fait. J'installe des applis de podcast sur les téléphones des gens que j'interview, parce que bah, nous, on n'a pas la culture d'être dans le métro tous les jours et dans les transports en commun. Il y a quelques transports en commun dans le Vaucluse, mais enfin bon... Voilà, donc les gens sont dans leur voiture et ils n'ont pas encore cette habitude-là d'utiliser le téléphone pour écouter un podcast, de pouvoir choisir, enfin moi ce que j'adore c'est de pouvoir choisir mon sujet, j'ai plein de podcasts qui sont téléchargés et le matin dans ma voiture je me dis alors ok aujourd'hui j'ai envie de quoi, un truc sympa, un truc, une fiction, une interview, un truc business, et ben, je peux prendre ce que je veux en fait, j'ai pas de pub, j'ai pas de blabla, ça me plaît pas, je passe à autre chose. Au lieu d'aller changer toutes les 3 secondes sur ma radio dès qu'il y a une pub ou un blabla qui me plaît pas. Mais ça, les gens dans le Vaucluse n'ont pas encore cette habitude-là. Donc moi, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'ai aussi mon petit bâton de pèlerin du « le podcast c'est quoi ?»« Le podcast comment ça marche ?» Voilà.
Alors, il faut aussi le podcast, comment ça se valorise. Et donc, quand tu installes l'application pour tes clients ou tes invités, tu vas aussi en profiter pour mettre des notes pour tes copains podcasteurs. Hein. N'oublie
c'est
pas.
C'est ça. Alors, ils n'ont pas tous des iPhones, mais oui, bien sûr. C'est expliquer tout ça, c'est changer le comportement. Donc maintenant, j'ai aussi des gens j'ai recroisé quelqu'un que j'avais interviewé l'année dernière qui me dit « Mais maintenant, j'écoute que des podcasts, c'est génial. Là, t'as changé ma vie, c'est trop bien. » Voilà.
Ah bah top,
mais bon,
voilà.
C'est une personne. donc voilà, les auditeurs, il y en a et je suis super contente. Alors des fois, c'est vrai que je me dis, bon, j'aimerais bien qu'il y en ait plus. Parce que voilà, quand j'ai l'interview de Julie qui parle de son endométriose stade 4, qui raconte qu'elle a quand même créé sa boîte, qu'elle a avancé, qu'elle s'est dépassée, qu'elle travaille avec ça, qu'elle a fait le semi-marathon... encore, malgré ses problèmes de santé, qu'elle a fait même des crises avant de partir. Enfin, voilà, moi, je trouve qu'il y a quand même... C'est le Vaucluse, mais il y a plein de choses, quoi. Et quand je vois, voilà, Alexandre Lezoeuf, qui est un chorégraphe, qui est d'une passion pour la danse, qui a appris tout seul, que quand tu l'écoutes, il m'a dit qu'il s'était auto-ému quand il s'était écouté. Voilà, je me dis, faudrait que ça soit écouté par plus de monde. Mais bon, voilà, c'est...
Comme l'a soulevé Anissa dans un des Cappuccino, donc qui est une application audio qu'on utilise entre podcast makers, ton podcast devrait être d'utilité publique, il devrait être dans toutes les oreilles.
Là, j'avoue, j'ai été plus que touchée, hein. Je m'en remets toujours pas de cette phrase qui est arrivée là en début de semaine. Merci d'ailleurs Anissa, mais ouais, bah écoute, super. Moi, j'y vais avec le cœur et les gens que j'interview, en tout cas, j'essaie d'avoir des gens qui sont passionnés. Et pour moi, peu importe ce qui se passe aujourd'hui dans la société, peu importe, c'est très compliqué pour tout le monde. Moi, je suis en contact avec beaucoup d'artistes qui peuvent pas exprimer leur art et qui, des fois, se demandent même, parce qu'ils sont pas essentiels, soi-disant, comme beaucoup d'entreprises aujourd'hui, qui se demandent à quoi ils servent. Moi, clairement, le théâtre, ça a changé ma vie. Les artistes, ça change ma vie. Et si déjà on peut partager ça sur le podcast, voilà. Et les gens passionnés, peu importe, hein, toi, c'est les sportifs, mais que ça soit des entrepreneurs, des sportifs ou mère de famille, n'importe qui en fait. À partir du moment où t'es passionné, je pense que déjà ta vie elle va beaucoup mieux et elle avance de manière plus positive. Après, on a tous les galères, mais. Et moi, c'est vraiment ça. Le truc que j'ai envie de sortir, c'est ça quoi. C'est que les gens, quand ils aient écouté, après ils sortent avec le sourire et juste ça leur a donné un peu de patate quoi.
Bon, ça va être dur, hein, parce qu'en général, quand j'enregistre des épisodes, après, moi, je les monte, et quand je les monte, j'essaie de ressortir quelques phrases pour faire une dizaine de citations et une dizaine de visuels pour mettre sur les réseaux sociaux. Là, il va falloir que je mette une heure et demie de citations, ça va être compliqué.
Bah, écoutez le podcast et puis c'est tout, quoi.
Voilà, c'est ça. Reposez vos yeux, écoutez un podcast.
Ah, voilà.
ok, donc, et au niveau de l'avenir d'Esperluette, comment est-ce que tu le vois évoluer dans les prochains mois, les prochaines années? Est-ce que tu te vois maintenir Esperluette dans 10 ans, 15 ans, 20 ans?
J'aimerais bien, ouais. Bon là j'avoue, tu tombes dans un moment, alors c'est marrant parce qu'à la base on devait enregistrer cette interview il y a 10 jours, il y a une semaine.
La semaine dernière, le voilà. Jour où le confinement a été voilà. Réannoncé.
Et donc depuis le confinement, mon cerveau est en ébullition, a beaucoup réfléchi et voilà, professionnellement aujourd'hui c'est plus compliqué pour moi et j'ai perdu des clients, des missions, donc là la fin d'année elle est un peu complexe et je sais qu'il va falloir que je lève un peu le pied sur Esperluette pour pouvoir trouver une nouvelle mission et mettre mon énergie pour financièrement m'en sortir, hein, parce que c'est comme beaucoup une activité bénévole et que ça me prend beaucoup beaucoup de temps, hein, puisque j'ai choisi de faire plein de formats différents et de couper mes questions, voilà, donc j'y passe des journées. Mais moi, si ça peut continuer, oui, de toute façon, là, c'est pareil. J'ai contacté mes amis artistes pour leur dire, peut-être qu'il y a moyen de donner un peu la parole aux artistes sur Esperluette, même si vous pouvez pas jouer tous les soirs et être là. Donc, peut-être un autre format. J'ai une chronique culturelle, là, qui a été faite par une actrice qui commence, qui a fait son premier épisode. Donc, oui, après, ça sera moi qui réalisera ou pas. Ça sera d'autres personnes. Je pense qu'Esperluette, oui, restera d'une manière ou d'une autre. J'aime trop ce mot pour laisser tomber, pour laisser tomber le podcast. Donc après, peut-être moins souvent, peut-être pas une publication par semaine. Mais oui, parce que dans ma tête, c'est j'en ai marre. Des fois, j'en ai marre. Je pense qu'on a tout ça. Hein, j'en ai marre, j'arrête tout, ça me prend trop de temps, je me fatigue. Et puis en fait, au bout de 3 secondes, je me dis, mais en fait, si j'arrête tout, je vais me jeter dans le Rhône directement. Donc, donc voilà. Écoute, on verra, mais oui, Esperluette, le but, c'est que ça dure sous cette forme ou sous d'autres. Hein, je pense que mes auditeurs, aujourd'hui, ont l'habitude que ça bouge. Donc en fait, l'avantage, c'est que je peux faire ce que je veux et qu'on verra, ça évoluera.
La plateforme Esperluette, dans 10 ans, on parlera plus du podcast Esperluette, on parlera de la plateforme avec du podcast, de la vidéo, du blogging, des gens qui viennent,
alors,
qui partent.
Par contre, alors, on en reparlera dans 10 ans, si tu veux, on la refait dans 10 ans, mais pas de la vidéo. Clairement pas.
Ah, pas de vidéo.
Voilà. Parce que par contre, s'il y a un truc sur lequel je suis sûre, c'est de focaliser sur l'audio.
On en reparlera. Hein. Tu sais, Bertrand Soulier, qui fait partie de la communauté des podcast makers, qui a toujours dit vous ne me verrez jamais faire de la vidéo sur mon podcast, qui maintenant filme ses podcasts pour pouvoir les diffuser et apporter un petit plus aussi aux auditeurs qui veulent regarder sur YouTube, qui veulent regarder un passage en particulier quand il est seul ou quand il a des invités. Donc, on en reparlera dans quelques années.
Peut-être. Mais j'avoue, alors j'ai une chaîne YouTube. Hein, je mets mes interviews sur YouTube. Je suis pas très à jour là, mais. Mais je fais une image fixe. Mais par contre, moi, mon but de YouTube, c'est de rendre accessible le podcast aux malentendants. Et donc, parce que j'ai fait un épisode sur quelqu'un qui a travaillé sur la langue des signes, que j'avais commencé à apprendre la langue des signes il y a un peu plus d'un an maintenant. J'ai pas le temps de continuer, malheureusement. Mais voilà, l'accessibilité, pour moi, c'est quelque chose d'important. Et à partir du moment où tu choisis un média qui est que audio, obligatoirement, tu coupes une partie de la population qui peut pas l'entendre. Donc moi, je le fais en version sous-titrée, c'est pour ça que ça me prend du temps, pour que les gens puissent au moins avoir le message avec les sous-titres. Mais...
Donc tu sous-titres toi-même ou tu utilises des outils pour sous-titrer?
J'utilise soit Headliner, soit le sous-titrage déjà fait par YouTube, que je relis entièrement et que je retravaille pour qu'il soit bon. Parce que des fois, ça marche bien, mais voilà.
Des fois, c'est un peu aléatoire.
Il y a des mots, surtout sur les noms des gens, des choses comme ça. Puis selon les personnes, en fait. Il y en a, ça passe très, très bien. Et puis, il y a d'autres voix qui passent, faut tout refaire, quoi. Donc, ça prend du temps, mais ça rend, voilà, ça rend un tout petit peu plus accessible le message. Mais la vidéo, on verra, mais ça m'étonnerait.
On en reparlera, on en reparlera,
ouais,
on en reparlera.
Ouais.
Pour finir sur Esperluette, au niveau de la distribution, de la promotion de ton podcast, déjà peut-être de la jeunesse, comment est-ce que tu as fait pour tes premiers épisodes? Et puis maintenant, est-ce que tu as évolué? Est-ce que tu as changé de stratégie? Comment tu parles de ton podcast et comment tu fais pour, à ton avis, gagner quelques auditrices, quelques auditeurs?
En même temps, mon métier étant la communication, comme d'habitude, je fais des choses, mais je fais pas assez par rapport à ce qui pourrait être fait, n'est-ce pas? Mais parce que voilà, on fait ce qu'on peut.
Tu fais déjà plus que d'autres?
Peut-être, oui. Sûrement.
Ou mieux?
Donc moi, je suis pas mal sur les réseaux sociaux, en fait. C'est ça qui m'a permis de développer. J'ai commencé sur Facebook et Twitter. Et là, aujourd'hui, je suis beaucoup, beaucoup sur Instagram, en fait. Et ça m'a permis de pas mal développer mon auditorat, en fait. Instagram, parce que je fais régulièrement des stories, parce que voilà, ça a touché des gens. Et ça m'a plus permis de toucher d'autres personnes en dehors de mon réseau perso. Parce que Facebook, ça me faisait rester dans mon microcosme. Et donc, obligatoirement, voilà. Après, je saoule tout le monde pour qu'ils partagent au maximum. Je relance les gens 50 fois qui partagent pas, qui me disent « Ah oui, c'était génial !» Oui, oui, bah vas-y.
Bah vas-y, parle-en.
Voilà, parle-en. T'as un iPhone, mets des étoiles. Des fois, c'est un peu fatigant. Donc voilà, pas mal sur les réseaux sociaux. Et puis en fait, là maintenant, je commence à animer des conférences. Bon, en ce moment moins, mais à animer des conférences dans le Vaucluse. Donc je parle du podcast au passage. Je commence à faire des petits déj professionnels autour du podcast, voilà, donc je commence à être un peu reconnue sur le territoire, en tout cas comme quelqu'un qui fait du podcast, et comme le podcast, on commence à en entendre bien parler. Ils disent, ah bah tiens, il y a peut-être quelqu'un, parce que moi, quand je vois des acteurs locaux qui vont chercher des studios de prod pour faire des interviews à Paris, pour parler du territoire, ça me fait un peu mal au bide.
Ouais.
Donc voilà, j'essaye d'être reconnue en tout cas sur le territoire par rapport à ça, et puis bah, ça me permet après derrière de parler de mon podcast, mais aussi de tous les podcasts qui ont tour selon ce que les gens aiment bien écouter, quoi.
Donc tu fais le rôle de l'évangéliste du podcast.
J'ai un peu l'impression d'être avec mon petit bâton de pèlerin des fois, ouais.
Ouais, sur Instagram, tu dis que tu utilises beaucoup Insta, donc tu fais pas mal de stories. Est-ce que tu fais aussi, c'est un peu comme fait Solène de Finscale, quelques waves avec une image fixe qui dure 30 secondes, une minute, pour donner un petit peu envie aussi aux gens qui écoutent ou qui regardent Instagram, pas uniquement pour les images?
Alors moi, sur chaque publication, en fait, sur le fil Instagram, j'ai trois images pour que ça fasse une ligne, tu vois, pour que ça soit joli. Au milieu, il y a toujours une citation, et donc je fais un extrait audio de ça, donc ça fait une petite vidéo. Après, j'aimerais bien faire plein de stories avec des extraits, des machins, des trucs, mais j'ai pas le temps, clairement. Voilà. Donc oui, c'est une très bonne idée. Après, voilà, ce que je fais aussi, c'est que des fois, pour montrer un peu que le but, c'est de valoriser le territoire, quand je vais quelque part qui me plaît, qui est joli, ou dans une boutique qui me plaît, je fais pas l'influenceuse, mais je vais prendre une vidéo et après j'enregistre ma voix dessus. Donc on voit pas ma tête, mais on voit le lieu et on entend ma voix. Le but, c'est vraiment que les gens aient l'habitude d'entendre ma voix. Où je dis, bah voilà, pourquoi j'aime bien, j'ai trouvé ça super, mais je l'ai fait pendant mes vacances. Mais toujours sans montrer ma tête, en fait. Enfin, c'est rare. Là, ce week-end, demain, je vais faire une... Non, samedi, je vais faire un live Instagram. Une influenceuse du coin qui m'a demandé de participer à un live Instagram. Donc, je serai en vidéo, mais c'est pas moi qui ai décidé.
Passons un petit peu sur ta vision du podcast francophone, en France, en Europe, dans le monde. Comment est-ce que tu vois l'évolution du podcast et comment est-ce que tu l'imagines dans les prochaines années? Alors, j'imagine que des échanges qu'on a déjà eus par cappuccino interposé ou pas, on est un peu sur la même lignée, c'est-à-dire qu'on croit énormément aux médias podcasts. Moi, personnellement, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de choses à faire pour les entreprises, que ce soit du podcast interne ou du podcast externe, du podcast de marque, du podcast en marque blanche. Enfin, je suis vraiment persuadé que c'est un média d'avenir. Quelle est ta vision là-dessus?
Ah, mais moi, je suis persuadée de ça. Je pense qu'il y a de la place pour la photo, il y a de la place pour la vidéo et ça apporte énormément de choses. Mais je pense qu'aujourd'hui, réfléchir à l'audio aussi, c'est top. Alors moi, j'attends qu'une chose, c'est que sur les réseaux sociaux, on ait des players audio et qu'on arrête d'avoir que de la vidéo pour être obligé de faire de la vidéo.
C'est pas gagné.
Mon côté écolo me dit qu'en plus, ça permettrait d'avoir des fichiers un peu moins lourds et donc aussi d'avoir des choses qui utilisent un tout petit peu moins de flux, hein, même si voilà, les réseaux sociaux, c'est quand même énorme en consommation. Mais pour moi, l'évolution, elle est là et elle est aussi dans... mais c'est l'évolution de la communication aussi pour moi. Et je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est aussi une preuve du fait qu'il faut aller vers ça. C'est que pour moi, l'ultra local, c'est quelque chose qu'il faut développer et que le podcast peut être un outil pour développer l'ultra local. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il se passe plein de choses juste autour de chez nous, mais que la plupart du temps, même les associations, je suis pas mal active dans le monde associatif, les associations ne se connaissent pas entre elles alors qu'elles sont à, je sais pas, 10 km l'une de l'autre et qu'elles sont complémentaires. Et ça, je trouve ça juste dingue, en fait. Donc, l'avantage de l'audio, c'est que t'as pas besoin d'avoir une belle image, une belle lumière, tout ça. Tu peux l'enregistrer même à distance. Aujourd'hui, on est tous confinés et qu'on n'a pas le droit de se voir. Et tu peux quand même faire du contenu de qualité qui valorise les choses et qui rentre dans une intimité avec la personne qui écoute, qui est quand même assez... Enfin, pour moi, c'est assez intense. Alors, on n'a pas tous la même sensibilité, mais moi, j'ai un podcast que j'adore aujourd'hui qui s'appelle « Renaître ici ». Qui a été fait par la région Auvergne-Rhône-Alpes et qui valorise leur territoire avec des épisodes autour des différentes... Là, j'ai écouté le dernier qui est sur le Rhône, donc sur le Rhône plus au nord que le Rhône que j'ai moi dans le Vaucluse, mais voilà. En plus, moi, je travaille avec la Compagnie Nationale du Rhône, donc ça m'a beaucoup parlé. Et il n'y a pas d'image. Ils ont une illustration qui est toujours la même pour tous les épisodes. Il n'y a pas de photo. Ce n'est que de l'audio. T'entends la personne qui est dans son canoë, qui avance, t'as le bruit de l'eau, t'as les oiseaux, t'as les poissons, t'as tout ça. Et tu sors de là, mais un, t'es relaxé, et deux, mais t'as juste envie d'y aller, en fait. Et donc, pour aujourd'hui, le tourisme, notamment, enfin, moi, ça fait partie des choses que j'ai envie de développer dans le coin, c'est de montrer que l'audio, ça peut vachement aider, qu'il faut sortir dans le Vaucluse des photos de lavande et du bruit de la cigale pour montrer qu'en fait, il y a plein de choses, mais que tu peux aussi l'exprimer avec l'audio. Et pour moi, ça, c'est l'évolution du podcast.
C'est d'ailleurs hallucinant, c'est ce que je me disais. Enfin, les offices de tourisme ne se sont pas saisis dans la grande majorité de ce média. Et pourtant, il y a énormément de choses à faire. Et puis, créer un podcast, enfin, produire un podcast, ça coûte autrement moins cher que de créer de la vidéo promotionnelle. Enfin, y a eu cette mode des offices du tourisme qui faisaient appel à des pilotes de drones pour filmer. Et ça coûte tellement cher.
Il y a les drones, il y a les influenceurs qui viennent de partout en France. C'est voilà, moi quand je vois qu'au mois de décembre, des acteurs du tourisme locaux continuent à publier des photos de lavande, alors oui, d'accord, la lavande c'est joli en Provence.
En décembre, il n'y en a plus. Hein.
En décembre, il n'y en a plus. La lavande, ça plaît beaucoup aux Asiatiques. En ce moment, les touristes asiatiques, on n'en a pas des masses. Mais par contre, il y a plein d'autres choses à montrer. Les couleurs d'automne autour du Ventoux en ce moment, mais c'est magique en fait. Il y a du rose, il y a du violet, il y a. Enfin, donc pourquoi on montre pas ça? Alors ils le montrent aussi, hein, je dis pas qu'ils montrent que ça, mais et après il y a les sons, il y a les oiseaux. Moi pendant le confinement j'ai eu le temps d'écouter les oiseaux juste dans mon quartier, là j'ai fait un épisode là-dessus, mais c'est impressionnant le nombre de sons différents qu'il y a. Et déjà si tu pousses les gens à juste ouvrir leurs oreilles, à se dire j'habite dans le sud du Vaucluse, par contre je vais aller voir le Ventoux parce que j'ai entendu des choses qui sont impressionnantes. Voilà, t'as pas besoin d'aller loin, en fait, pour t'évader. Ouais.
Écoute, je pense que cette petite réflexion clôture la phase « Qui es-tu ?», ton podcast, ta vision du podcast et autres. Et en général, moi, pour finir mes podcasts, j'aime bien poser quelques petites questions à mon invité. Alors, est-ce qu'on joue à ce jeu pour Offcast aussi ?
Oui, bien sûr.
Si tu pouvais te transformer en une petite Marie Cunégonde, Marie-Cécile, pardon, et te parler à l'oreille de la Marie-Cécile de 14-15 ans quand tu décides à être anthropologue, qu'est-ce que tu te dirais ?
Oh là là, bah vas-y, fonce, clairement. Alors après, moi à l'époque, j'étais plutôt hyper stressée. Voilà, je faisais des crises de spasmophilie, de stress à chaque fois qu'il y avait un truc inattendu dans ma vie. Donc quand on entend mon parcours après, on se dit c'est pas possible. Mais voilà, bah écoute, c'est la vie, c'est stressant. Oui, il y a plein de choses inattendues, mais en fait c'est top. Vas-y, fonce, rencontre les gens, parle, échange, nourris-toi de ce que les gens ils peuvent t'apporter. C'est infini en fait. Et ça, clairement, oui, vas-y.
Un peu la même question. Si tu pouvais te parler à la Marie-Cécile, mais de 2017, quand ton frère te dit « Vas-y, mais fais un podcast ».
Ah bah oui, bah vas-y, fonce. Encore plus.
Ouais, t'as pas le droit de dire la même réponse, hein, c'est pas possible.
Mais pourquoi tu l'as pas fait avant? Non, oui, écoute... Ouais, je me dirais, écoute ton instinct, en fait. Vraiment, écoute ton instinct, et de plus en plus, c'est ce que je fais, ça me nourrit... te mets pas de barrière, ok, t'as pas de micro, bah c'est pas grave, t'as un téléphone, tu sais pas comment le publier, bah c'est pas grave, tu trouveras l'info. Aujourd'hui, on peut trouver l'info, plein d'infos partout en fait. Si tu demandes un peu aux gens autour de toi, tu trouves toujours quelqu'un qui va te donner une réponse. Sans forcément demander à Google, hein, mais tu vois, t'as toujours quelqu'un au final qui peut te donner une réponse, t'apporter de l'aide. Tu as du réseau. Enfin, moi, je sais, quand je suis arrivée dans le Vaucluse, je me suis dit, j'ai pas de réseau. Mais si, on m'a dit, si, t'as du réseau, même si tu connais personne, t'as du réseau en fait. Et donc rien que ça, le réseau, mais c'est... Donc vas-y, suis ton instinct, utilise ton réseau, parle aux gens, voilà, continue.
Est-ce que tu as quelques anecdotes croustillantes qui te sont arrivées sur ton podcast? Alors des anecdotes sympas ou des moins sympas, mais histoire de partager un petit peu avec l'audience de Offcast.
Alors moins sympa, c'était, je sais pas, ça faisait quoi, 6 mois, un peu plus de 6 mois que j'avais le podcast. Et... Donc, sur la péniche Altea, qui est là où j'enregistre une tisane éolienne, qui est la péniche d'une copine qui a un bar à tisane, où il y a des thérapeutes, tout ça, qui a une vue sur Avignon magnifique, pour ceux qui viendraient à Avignon. Il y a une stagiaire qui vient et donc on discute un peu. Je lui demande, bah, qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens? Elle voulait ouvrir un bar à tisane, donc voilà. Et elle me dit, bah, en fait, je suis en reconversion professionnelle. Je fais de la production et ingénieur du son à Radio France, et je travaille sur les fictions sur France Culture en fait. Et là je me dis, ok, elle est pas du Vaucluse, mais je peux pas la laisser partir sans faire d'interview parce que voilà, c'est la fiction radio, je connaissais pas du tout à l'époque, j'avais jamais écouté, j'ai découvert ça avec elle, puis je la sentais passionnée par le son, tu vois, on parlait du son clairement, voilà. Donc on fait l'interview, on se pose sur la péniche, je pose mon joli H2 et mon micro-cravate. J'étais passée à l'étape 2, j'avais pris le micro-cravate.
Attention.
Maintenant j'ai un H6 et plusieurs micros avec des pieds. Et donc on fait toute l'interview et je fais pas gaffe en fait si l'enregistrement fonctionne ou pas. Donc on parle pendant une heure et là j'arrête, je prends mon truc et je me dis, mince, j'ai pas besoin d'arrêter l'enregistrement, c'est bizarre quand même. Donc je réécoute. Et là, j'ai « Bonjour, je m'appelle Émilie Couette. » Et c'est tout. Ah, et elle est en face de moi. Et là, je la regarde, j'ai fait « Ah non, mais c'est pas possible. » On avait parlé pendant une heure. Elle m'avait fait une interview de fou. C'était parfait. Il y avait plein de phrases magnifiques, avec un peps pas possible. Et là, je me dis... Et elle repartait à Paris le lendemain, en fait. Donc, elle me regarde, elle dit « Bah, c'est pas grave, on la refait. » t'es sûr, parce que quand même,
ça sera pas aussi naturel.
Et ben en fait si, parce que elle, c'est quelqu'un de radio, donc elle sait, elle connaît, et puis c'est quelqu'un avec plein de peps et super énergie. Et au final, ça a été un peu plus condensé, mais l'épisode il est top et je suis ravie de l'avoir fait. Et voilà, et on a, en plus ça nous a permis vraiment de se rencontrer avec Émilie, donc voilà, galère, mais j'ai eu un grand moment de blanc quand j'ai vu ça et que j'ai entendu ces deux phrases. Encore, on aurait enregistré 20 minutes, j'ai dit, bon, bah, j'aurais pu le couper, tu vois. Ouais. Mais là, j'avais rien. Donc voilà, ça, bon. C'est la galère.
Et une anecdote plus sympa?
Oh, mais j'en ai plein. Enfin, moi, clairement, hein, quand j'interview Augustine Hoffman, qui est une chanteuse du Vaucluse et qui finit avec sa guitare et qui me fait le prochain Une tisane au lit, elle a recommencé, elle est venue échanger sur la créativité. Elle avait pris sa guitare, elle nous a fait une petite chanson. Et une chanson qui cale bien avec le sujet du jour et les gens que tu rencontres et que tu finis avec la larme à l'œil, moi, c'est mon plaisir, quoi. Je repars d'Alexandre Lezoef, hein, qui est un chorégraphe qui... transpire d'émotion quand il parle et quand il danse, et ça se sent quand t'écoutes l'interview. Moi, ça, j'adore quand les gens m'envoient des messages en me disant, mais j'ai écouté, il m'a trop ému, c'est magnifique. Bon, bah voilà.
Le job est fait.
Ah ouais, carrément. Et puis donner la parole à des gens qui sont moins connus, parce que clairement, voilà, je pourrais, on m'a dit plusieurs fois, vas-y, interview les gens qui sont connus du Vaucluse. Il y en a des artistes qui vivent dans le Vaucluse, qui ont une maison secondaire dans le Vaucluse. Il y a des artistes qui sont nés ici et qui... Donc, essaye de les avoir, ça fera plus de réseaux. Donc, s'il y a plus de réseaux, bah, derrière, t'auras plus d'auditorat, tout ça. Oui, et en fait, non. parce qu'ils ont déjà de la visibilité, tu vois. Enfin, donc oui, pendant le festival, quand j'ai des têtes d'affiche, je suis contente, mais parce qu'on, j'arrive à parler avec eux de vraiment ce qu'ils font et on n'est pas dans la promo pure. Mais en fait, souvent, c'est aussi des gens qui ont un discours très formaté. Et donc, quand tu les connais pas, c'est compliqué de les faire sortir de ça. Alors que quand je parle à des gens qui n'ont pas l'habitude, ils sont un peu stressés au début. Mais après, t'as des interviews, t'as des messages qui sont magnifiques, quoi. T'as des perles, quoi. Ouais. Donc voilà. Donc ça me donne peut-être moins de vues, mais c'est plus, voilà. Ça me convient en tout cas.
C'est plus authentique, ouais. Et ça se ressent effectivement dans tes podcasts. Et allez, pour finir. C'est quoi pour toi une grande podcasteuse ou un grand podcasteur?
C'est quelqu'un qui s'éclate, en fait. Mais c'est pour podcasteuse ou autre chose, grand sportif ou grand artiste ou grand entrepreneur. Je pense qu'à partir du moment où, quand tu l'as fait, même si tu as galéré à monter ou quoi que ce soit, que tu le réécoutes ou que tu as enregistré l'interview, que tu sors et que tu as une banane jusqu'aux oreilles et que tu te dis « mais je suis à ma place », parce qu'en fait, moi, quand je finis, c'est souvent ça que je me dis, que c'est j'ai trouvé ce qui me plaisait, que dans la com, j'avais trouvé quelque chose qui me plaisait, mais je sentais qu'il manquait quelque chose. Là, quand je fais du podcast, je suis vraiment à ma place, je suis alignée avec qui je suis, avec ce que j'ai envie de faire et ce que j'ai envie de valoriser. Bah, pour moi, voilà, t'as pas besoin d'avoir 50 000 ou 2 millions d'écoutes, juste t'es à ta place, tu fais ce que t'as à faire et ça apporte quelque chose à un moment à quelqu'un, en fait. Donc voilà.
Bon. Ce sera une très belle conclusion pour cet épisode. Allez, juste avant de te laisser partir, sur mon podcast, sur l'un de mes podcasts de sport en général, je demande qui serait le prochain invité qu'il ou elle aimerait écouter. Et justement, pour Offcast, qui est-ce que tu aimerais bien écouter dans la communauté, interviewer par qui? Est-ce que tu as des idées à donner à la communauté?
Ben alors moi j'en ai une en préparation là, j'ai proposé à Mélanie Hong qui a plusieurs podcasts et notamment qui a fait une fiction autour de qui s'appelle Mira et qui est autour d'une famille d'asiatiques qui vit en France et sur les questions de différences culturelles. Mm-hmm. Donc celle-là elle est en préparation. Alors j'en ai parlé hier quand on a fait notre réunion Zoom sur Podcast Makers. Je pense pas qu'il fait pas partie de la communauté Podcast Makers, mais moi j'aimerais beaucoup entendre Julien Cernobori de Cerno. Okay. Parce que je suis très passionnée par son enquête, son anti-enquête, qui à mon avis a dû débuter pareil sur tiens allez j'ai ce sujet là j'y vais. Je pense pas qu'il, enfin je me trompe peut-être hein, mais là ça commence à durer, il en est à sa deuxième ou troisième saison. Je pense pas qu'il pensait que ça allait durer aussi longtemps. Et je trouve ça passionnant sur savoir comment il a écrit ça, comment il le gère sur la durée. Voilà. Donc il est peut-être pas dans la communauté Podcast Makers, mais je trouve que son podcast, il est vraiment différent et qu'il apporte quelque chose. Enfin, moi, j'adore l'écouter. J'attends le dimanche avec impatience pour avoir le nouvel épisode.
Bon, écoute, voilà. On passera le message. Ce sera peut-être l'occasion de faire parler encore plus de la communauté des podcast makers et du podcast. Et puis, écoute, pour finir, je ne peux pas te laisser partir comme ça. Il faut que tu nous dises où est-ce qu'on retrouve ton podcast.
Sur toutes les applications d'écoute audio. Oui, sur Apple, Deezer, Spotify, partout. Hein. Je suis un peu diffusée partout. J'ai un site internet qui est esperluette-podcast.fr. Un compte Instagram, un compte Facebook, je suis sur LinkedIn, voilà, facile, Esperluette.
On devrait réussir à trouver quelque chose.
Normalement, enfin j'espère, si vous ne trouvez pas, dites-le moi parce que ça peut être utile à savoir.
Voilà, et puis on remettra de toute façon quelques liens dans les notes de cet épisode.
Ouais.
Marie-Cécile, et pas Marie Cunégonde, merci beaucoup pour cet épisode.
Ah, j'ai eu du mal avec ce prénom en étant petite, mais moi je l'aime bien maintenant.
c'est toi, Marie-Cécile,
c'est
voilà.
L'avantage c'est ça, c'est qu'en fait comme c'est un prénom qui n'est pas très utilisé, quand je dis aux gens je suis Marie-Cécile, des fois j'ai même pas besoin d'utiliser mon nom de famille en fait. Marie-Cécile, ça parle, tu vois.
Ouais, je partage. Hermano, c'est quand même pas très, très fréquent. Et en général, ça, c'est bon côté et c'est mauvais côté. C'est qu'on m'oublie jamais. Donc justement, comme on t'oublie pas,
Faut pas te louper.
C'est ça. Encore, merci beaucoup pour cet épisode qui était vraiment top. Et puis, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Esperluette, alors.
C'est ça. Diffusé le dimanche soir et publié sur les réseaux sociaux à partir du lundi, au fur et à mesure de mes possibilités. Voilà. Et c'est merci parfait. En tout cas de m'avoir proposé ce moment. C'est sympa d'échanger avec toi plus de 3 minutes.
Par cappuccino interposé.
C'est ça.
Super, merci beaucoup.
Et rejoignez-nous sur le cappuccino, les podcast makers.
Tout à fait.
Sympa.
On mettra aussi le lien dans les notes de l'épisode.
Si vous êtes encore là, il est fort à parier que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à aller jeter un œil aux autres épisodes de Offcast, le podcast par la communauté Podcast Makers, et à laisser un commentaire sur Apple Podcast et sur toutes les autres plateformes. Et si toi aussi, tu es podcasteur, n'hésite pas à rejoindre la communauté des Podcast Makers. Allez, à bientôt pour un nouvel épisode. Offcast, le podcast de la communauté des podcast makers francophones. C'est pas facile à dire quand même.
Non. Podcast maker Offcast.
Ouais, c'est compliqué. Donc, on en parlera au patron qui a monté cette communauté, même si c'est assez sympa parce que c'est pas genré et donc on peut se parler entre nous sans dire podcasteur, podcasteuse, podcastrice et revenir sur tous ces mots. Mais en tout cas, quand il faut le dire, les podcast makers de Offcast, enfin Offcast, c'est compliqué. Bref. Après cette longue intro...